Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à Là-haut sur la colline. Le printemps dernier, des élus ont ressenti l'appel du devoir et sont allés prêter main forte au personnel des CHSLD. Cet automne, une élue libérale, Marois Risky, qui était allée en CHSLD en avril, a décidé de faire le même type d'expérience de terrain, mais dans une école cette fois, établissement où il y a un manque cruel d'enseignants et de suppléants. Madame Risky a même dû réviser certaines notions de mathématiques, nous confie-t-elle. Mais d'abord, parlons sécurité nationale avec un vadrouilleur enquêteur qui est au bout du fil.
C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre qui voulait vous que ça soit.
Article très intéressant ce matin dans le journal sur le projet Laurentia, un vaste projet d'agrandissement du port de Québec. C'est quand même 775 millions d'investissements et dont le maire Labeaume se fait un ardent promoteur d'ailleurs. Mais notre bureau d'enquête a appris que ça pourrait devenir un enjeu de sécurité nationale pour en discuter. Mon collègue Alexandre Robillard est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Donc, pourquoi un enjeu de sécurité nationale potentiel?
Tout simplement parce que dans le projet Laurentia, il y a donc le Canadien National, la société de transport ferroviaire, mais il y a également une société de Hong Kong qui s'appelle CK Hutchison. Et cette entreprise-là donc est établie à Hong Kong et les lois canadiennes font en sorte que tout investisseur étranger doit passer un processus d'autorisation quand vient le temps d'investir au Canada. Et il y a des dimensions de cette analyse-là qui évaluent, dans le fond, les risques potentiels à la sécurité nationale. Et les informations qu'on a eues, c'est que dans le contexte de tout ce qui se passe à Hong Kong, c'est-à-dire la reprise en main par le gouvernement central chinois, avec ce que ça a eu comme impact sur les droits et libertés, ça peut devenir un enjeu de sécurité nationale d'avoir cette entreprise-là dans une infrastructure aussi stratégique qu'un terminal de conteneurs.
On sait qu'il y a des tensions de plus en plus grandes entre le Canada et la Chine depuis l'arrestation de Meng Wanzhou, la vice-présidente de Huawei. Est-ce que ça compte ici? Est-ce que ça joue dans cette inquiétude à l'égard de ce grand projet à Québec?
Bien, c'est-à-dire qu'on assiste à une grande redéfinition un peu des relations, notamment du Canada, puis des États-Unis aussi avec la Chine. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Pas plus tard que cette semaine, il y a M. Trudeau qui a dénoncé en fait la diplomatie coercitive de la Chine, notamment en raison de la riposte alléguée à l'arrestation de Mme Meng en emprisonnant les deux Michael. Et ce qu'il faut voir, c'est que bon, le Canada est évidemment un voisin des États-Unis. Et dans le cas de Hutchison aussi, les États-Unis ont déjà
OK. Hutchison, il faut préciser, Alexandre, c'est une grande compagnie qui est un des partenaires de cet agrandissement du port de Québec.
Oui, effectivement, il y a le Canadien National sur le plan du transport ferroviaire, puis Hutchison, c'est une très, très grosse entreprise de Hong Kong. Le dirigeant de cette entreprise-là, c'est un des hommes les plus riches, sinon le plus riche de Hong Kong, qui s'appelle Lee Ka-shing. Et donc, cette entreprise-là est effectivement un partenaire dans le terminal de conteneurs de Québec, Laurentia. Alors, on est devant une situation où cette entreprise-là, d'abord, est présente partout dans le monde. Là. C'est un des plus gros exploitants de terminaux de conteneurs. Et plus récemment, en mai, les États-Unis ont, semble-t-il, passé des messages à Israël au sujet d'une autre filiale de Hutchison concernant les risques liés à l'octroi d'un contrat à cette filiale-là pour la construction d'une grosse infrastructure de traitement des eaux en Israël. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est allé au mois de mai à Jérusalem. Il n'a pas parlé publiquement de cette entreprise-là. Ce que les médias ont rapporté ensuite, par contre, c'est que derrière des portes closes, ça aurait été très clair que les États-Unis n'aimaient pas ça. Dans une entrevue qui, elle, a été diffusée par le département d'État américain par la suite, M. Pompeo soulignait aux Israéliens que c'était pas du goût de Washington que des projets d'infrastructure soient confiés à la Chine en Israël, que ça pouvait compromettre jusqu'à un certain point la coopération avec les États-Unis. Alors, on a compris à ce moment-là, puis ça nous a été souligné de plusieurs sources à qui on a parlé, que c'est le signe un peu que Hutchison, du point de vue américain, ça commence à être une entreprise qui peut charger une relation d'affaires de dimensions qui n'étaient pas là peut-être plus récemment. Alors, c'est ce qu'on explique dans l'article aujourd'hui aussi.
Oui, on parle aussi des nouvelles routes de la soie. Ça, c'est un grand projet de Xi Jinping, là, le dictateur chinois, qui a déjà beaucoup d'intérêt. Les Chinois ont beaucoup d'intérêt dans le port du Pirée à Athènes, le port de Marseille aussi. Est-ce que les inquiétudes à l'égard de la sécurité nationale que le Canada pourrait avoir sont liées à ce type d'expansionnisme là chinois ou ce risque d'expansionnisme?
On ne peut pas relier directement le projet de Québec aux routes de la soie parce que jusqu'ici, le gouvernement chinois a principalement parlé de l'Europe. Donc, de son souhait de développer des routes et des trajets commerciaux avec les infrastructures qui viennent avec vers l'Europe occidentale. Par contre, c'est sûr que le contexte ouvre la porte à ce que ce soit perçu comme un élément qui pourrait s'inscrire dans ces visées expansionnistes-là. Donc, sur le plan politique, c'est sûr que ça ajoute une charge, justement, qui est mise en évidence par les craintes dont on nous a fait part.
Et revenons au projet dont il est question, le projet Laurentien. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais qu'il y a des gens ici à Québec qui s'y opposent farouchement pour des questions environnementales, notamment. Mais qu'est-ce que c'est exactement?
Donc, c'est un projet d'agrandissement du port de Québec de 17 hectares. Sur cet nouveau territoire-là, donc il y aurait un terminal de conteneurs. On prévoit dans le projet qu'il y aurait un transit d'environ 700 000 conteneurs par année. Et puis, c'est ça. Ce serait un port en eau profonde aussi. Ce serait le port en eau profonde le plus à l'ouest du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça permettrait à des navires qui peuvent transporter jusqu'à 13 000 conteneurs de décharger donc à Québec. C'est le projet comme tel. Et puis c'est un projet donc qui est mené par l'administration du port de Québec. Et le contrat qui a été conclu avec Hutchison et le CN, qui a été annoncé en 2019, c'est un contrat d'une durée de 60 ans pour justement l'exploitation du terminal. Donc Hutchison serait chargé du transit de conteneurs et le CN ferait le transport ferroviaire, donc il y aurait un prolongement des voies ferrées là, jusque dans cet agrandissement-là ici dans la baie de Beauport.
Il est arrivé dans le passé que Ottawa a bloqué des investissements. Tu parles d'un précédent dans ton article. On pourrait ajouter aussi le fameux projet de Flying Whales ici au Québec qui faisait craindre pour la sécurité nationale aussi. Est-ce que c'est des bons... est-ce que ce sont des précédents comparables aux grands projets de terminal dont tu parles?
Bien, ça, c'est des exemples qui indiquent peut-être une préoccupation du côté du gouvernement fédéral vis-à-vis des investissements qui sont en provenance de la Chine. Mm-hmm. Donc c'est sûr que le nombre d'éléments semble s'accumuler pour donner l'indication que le niveau de préoccupation augmente. Donc ça, c'est pour ça que les infos qu'on a, c'est que le projet du port de Québec pourrait avoir des difficultés à aller de l'avant. Donc c'est ça qu'on comprend à travers les informations qu'on a obtenues.
Mm-hmm. Il y a des concurrents là au projet d'agrandissement du port de Québec. J'imagine que ces gens-là doivent être ravis de voir que le fédéral a des doutes sur le grand projet de Québec.
C'est sûr que le projet est pas très populaire à Montréal. Le maire de Québec a même dit à la fin de l'été qu'il y avait une cabale qui était menée contre ce projet-là. Puis il réclamait l'engagement financier du gouvernement fédéral parce qu'il y a 180 millions qui sont attendus des gouvernements dans ce projet-là, dans le 800 millions. Et donc, on avait compris que du point de vue du maire Labeaume, il y avait la perception donc de tension, hein, que c'est pas un projet qui fait l'affaire. Il y a eu certaines analyses aussi économiques sur la viabilité du projet qui semblaient donc mettre en doute son avenir. Donc c'est sûr que ça peut faire l'affaire de certaines personnes, que il y a tout à coup des risques à la sécurité nationale qui apparaissent sur l'écran radar du gouvernement fédéral, parce que si tout à coup il y a des gros bateaux de 13 000 conteneurs qui s'arrêtent à Québec, il y a sans doute un peu moins de trafic qui poursuivrait sa route vers Montréal. Ça risque de redéfinir aussi les axes donc de transport. Et il y a peut-être des entreprises qui gravitent autour du port de Montréal qui pourraient être désavantagées par le projet Laurentia. Donc ça fait partie quand même du décor. Puis on peut imaginer que le gouvernement fédéral soit pris un peu là à gérer tout ça. Alors, ce qui fait que ce dossier-là va être intéressant à suivre.
Et on compte sur toi, Alexandre, pour le suivre. Et sur Taïeb Moala, qui est co-signataire de cet intéressant article dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, ce matin. Merci.
Merci.
C'était Alexandre Robillard de notre bureau d'enquête. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille,
le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
On le sait, le Québec a un urgent besoin d'enseignants, notamment des suppléants. Récemment, le gouvernement espérait même convaincre environ 800 jeunes profs retraités pour qu'ils reprennent du service dans les écoles. On va aller voir une enseignante universitaire retraitée, ben presque, c'est Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent.
Je ne suis pas encore retraitée, je suis en congé sans solde pour service public.
Mais vous êtes la critique en matière d'éducation, mais vous êtes aussi cette semaine une enseignante suppléante.
Oui, alors c'est la semaine en comté, donc on est dans nos circonscriptions. Mais comme vous savez, nos bureaux de comté sont fermés présentement dû à la COVID-19. Par contre, j'ai entendu l'appel qu'il manquait énormément d'enseignants et que la banque de suppléance présentement, elle est vraiment vide. Alors, il manque des suppléants pour venir aider dans le réseau d'éducation. Donc, j'ai levé la main. J'ai répondu présente. Vendredi dernier, j'ai appelé mon directeur général, Dominique Bertrand, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois.
Okay.
Et j'ai offert mes services pour la semaine.
Bon. Puis, vous avez commencé lundi?
Non,
mardi.
C'était congé. Donc,
c'est vrai,
mardi,
lundi, congé.
Mardi, j'étais au poste, donc on m'a fait d'abord une belle visite de l'école pour vraiment mieux comprendre c'est quoi les aspects de l'école. Et par la suite, en après-midi, j'étais dans une classe d'accueil. Et aujourd'hui, j'ai eu ma première classe toute seule, comme une grande. Alors, j'avais la classe de cinquième année.
Vous leur avez pas enseigné du droit fiscal, là?
Non, non, non. Mais quand je leur ai dit que j'étais avocate, ils ont eu peur. Okay. Ils me croyaient pas. Ils me disent, vous avez quel âge, madame? J'aurais dit 35 ans. Mais vous êtes donc bien vieille! Vous n'avez pas d'enfant! Pas encore! Moi, ma mère en a trois. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, je vais vous dire, on fait vraiment dire la vérité par les enfants.
C'est des enfants de cinquième année, c'est ça?
Oui.
Puis avez-vous de la discipline à faire? Parce que là, il y a plein de règles sanitaires en place dans les écoles. Comment ça se passe?
Ça se passe vraiment bien. Les enfants, là, c'est incroyable. Ils connaissent parfaitement le protocole. Le matin, quand on arrive, il y a vraiment des corridors qui sont faits. Donc, on sort dehors chercher notre groupe à l'extérieur, évidemment, lorsqu'il ne pleut pas. Alors, ils sont déjà rangés dans leur groupe. Par exemple, moi, j'ai le groupe 501. On va attendre que chaque groupe rentre pour garder une belle distance de 2 mètres. Quand on arrive à la porte, moi, j'ai mon désinfectant et chaque enfant va passer à tour de rôle, va se désinfecter les mains. Quand on rentre en classe, ils vont le refaire encore une fois. Là-dessus, là, ils sont très, très disciplinés. Ils portent leur masque dans le corridor et tout de suite, à leur bureau, ils savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas prêter leur crayon. Là. On a donné quelqu'un qui est arrivé à échapper un crayon. Et un des élèves voulait l'aider à ramasser le crayon, mais l'autre a dit « Non, 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 c'est mon crayon, je m'en occupe.
Ah, » Ils sont très conscients, alors. Est-ce qu'il y a eu des éclosions dans cette école?
Non, cette école, c'est très bien contrôlé. Il y a eu quelques cas isolés, mais vraiment à l'extérieur. Et lorsqu'on testait immédiatement la classe, toute la classe au complet était testée négative. Donc là-dessus, on touche encore du bois. La directrice d'école, moi, me fait vraiment sourire parce qu'elle a, je pense, 12 cerveaux. Le téléphone sonne, santé publique. L'autre téléphone, c'est l'infirmière. Et rapidement, dès qu'il y a une affaire qui est signalée, c'est immédiatement qu'elle déclenche son protocole d'urgence puis elle s'assure que sa classe au complet est testée rapidement. Puis que les résultats rentrent au poste puis ça ne gêne pas pour appeler l'infirmière pour s'assurer que ça rentre vite. Alors là-dessus, je pense que l'école a travaillé fort et je parlais avec une autre directrice adjointe aujourd'hui. Et elle me disait que quand les règles arrivent de Québec, du ministère de l'Éducation, eux n'ont pas beaucoup de temps. Là. Le soir, des fois, ils travaillent jusqu'à 10h30, 11h le soir pour adapter l'école pour faire face aux nouvelles consignes, pour que le lendemain, ce soit prêt pour tous les élèves. Puis, je vous dirais là, qu'ils sont là vraiment tout le temps souriants. Il y a une joie de vivre quand même, même si je sais qu'on peut être fatigué. Mais dans leur cas, là, je peux vous dire que dans mon école, il y a une grande magie qui s'opère. Les gens travaillent vraiment coude à coude, tout le monde ensemble, dans le même bateau.
Ils
s'assurent vraiment de la protection des enfants. Ça, là, ça paraît à quel point qu'ils les aiment.
Il était combien dans la classe d'accueil? Puis aujourd'hui, il était combien dans la classe régulière?
Bien, hier, on était 12 élèves dans la classe d'accueil, mais aujourd'hui, 18 dans ma classe de 5e année. Okay. Par contre, je vous dirais que la classe de 12 enfants en classe d'accueil était plus demandante que ma classe de 18 en classe régulière.
Ah oui, pourquoi?
Oui. Là, la classe d'accueil, là-dedans, il y en a plusieurs qui apprennent le français. Et qui partent, par exemple, qui arrivent de Syrie, d'autres qui, carrément, là, le chemin du migrant qui est parti d'Afrique, mais qui est passé par le Brésil pour remonter jusqu'au Québec. Alors, c'est tous des parcours différents, donc ils ont des bagages différents. Alors, l'école travaille non seulement sur la francisation, mais aussi sur l'adaptation sociale. Et la directrice était vraiment fière, et avec raison, de sa classe. Elle a une autre classe qui s'appelle la classe kangourou. Hein? La classe kangourou, là, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est vraiment génial. Ça vient de l'Angleterre et c'est un concept vraiment pour aider les enfants qui ont peut-être pas socialisé suffisamment en bas âge avant d'arriver à l'école.
Ah bon?
Alors, on leur donne beaucoup.
Donc, c'est un sac,
d'amour.
On pense au sac ventral là, quand on pense à un kangourou, c'est un peu ça l'idée.
C'est vraiment ça, puis ils mangent en kangourou, donc on mange en famille. Et la directrice en parle, elle a vraiment des étoiles dans les yeux, puis les enseignants aussi, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils ont été capables de développer avec des enfants qui ont vécu d'autres choses auparavant, puis des affaires pas vraiment faciles dans leur vie. Et ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'ils sont vraiment prêts pour l'école et que c'est pas un trop grand choc lorsqu'ils quittent la maison, qu'ils arrivent à l'école. Et vraiment, on voit qu'ils s'adaptent davantage. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très chouette, la classe kangourou.
Ben oui, c'est des gens donc qui n'ont pas socialisé, c'est ça? Ils ont comme été laissés de côté ou quoi?
Oui. Ben, ça peut être ça. Est-ce que les besoins affectifs doivent être davantage comblés? Et là, ça prend vraiment une attention plus que particulière. Il faut les chouchouper, pour reprendre l'expression de la directrice. Et c'est vrai qu'ils sont chouchoutés avec beaucoup de soins. Et hier, mais même aujourd'hui, orthopédagogue, orthophoniste, la conseillère en orientation aussi présente. Et on voit qu'il y a vraiment une dynamique dans l'école. Par exemple, moi aujourd'hui, dans ma classe de cinquième année, une chance que j'avais aussi l'orthopédagogue qui est venue. Elle a travaillé avec trois élèves qui ont besoin d'une attention plus accentuée, par exemple en français. Alors là, elle quitte avec eux pendant une heure pour travailler davantage. Là, eux sont contents. Alors, ils partent toutes fiers avec l'orthopédagogue. Et quand ils reviennent, le sourire aux lèvres, ils reviennent avec leur groupe.
Là, pendant ce temps-là, donc, vous enseignez quoi, le français?
Alors, moi, pendant ce temps-là, je continue avec mon groupe de français. Et en après-midi, on a terminé avec les mathématiques et les divisions, puis les nombres premiers. Donc, même moi, j'ai revisité les nombres premiers.
Ah oui?
Oh oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas parlé des chiffres premiers. Donc, je vais faire une petite mise à jour pendant la pause du lunch.
Ça, quand on a des enfants, justement, on revisite bien des contenus comme ça qu'on avait un peu oubliés. Et je me demandais, Marois Risky, vous qui êtes très critique du ministre et tout ça, est-ce que vous, quand on découvre le terrain comme ça, on ne se rend pas compte que parfois on en demande beaucoup ou qu'on est trop critique ou l'inverse?
Moi, j'ai un peu vu ça comme une belle expérience pour moi pour voir les bons coups, puis voir qu'est-ce qui peut vraiment être utilisé. Puis moi, ce que j'ai aimé, autant hier qu'aujourd'hui, ça a été le pairage. Moi, par exemple, on peut me qualifier de jeune enseignante suppléante.
Oui.
Et on est un peu intimidé, je veux pas, devant une classe de tout petit, qui ont plein de questions, puis que nous, OK, on arrive, on connaît pas nécessairement tout dans l'école et le fonctionnement. Mais d'abord, par exemple, à un moment donné, la directrice adjointe qui vient avec moi en classe pour faire ce qu'on appelle un jogging d'écriture. Alors, un jogging d'écriture, par exemple, vous, M. Robitaille, qui fait beaucoup de courses, je le sais, mais le jogging d'écriture, là, c'est un sport.
C'est quoi?
On demande aux enfants. On fait fonctionner leur imagination. Donc, ils doivent choisir un thème et pendant 10 minutes, ils doivent écrire le maximum de mots.
Okay.
Pendant 10 minutes. Alors là, c'est vraiment, on fait appel à leur imagination. Il n'y a pas de limite. Il faut qu'ils continuent à écrire pendant 10 minutes sans arrêt. C'est une compétition de mots. Et à la fin, on calcule celui qui a écrit le plus de mots en 10 minutes. Alors aujourd'hui, c'était 184 mots, le grand chiffre.
Est-ce que c'était bon?
On reprend la... Oui, il y en a une, là, ça rimait, là. Alors, je crois qu'elle nous a lu son texte. Nous, au début, elle a réussi. Elle, en plus de ça, elle est allée une étape plus loin. Elle a même fait rimer chaque phrase avec la suivante.
Mais voyons donc.
Et c'était au fond un hommage à un élève de sa classe.
Ah bon?
Alors, là, après ça, nous, on dit, OK, entends-tu d'un garçon dans la classe? Et la réponse était oui. Et là, nous, on a trouvé, c'était qui dont elle parlait.
Mon Dieu, on assiste à la naissance d'une idylle.
Peut-être. Là, c'est okay. La
bon. Ça pourrait être une bonne personne pour faire du filibustering au Parlement, quelqu'un qui parle beaucoup comme ça, d'abondance.
Oh, mais avoir une magnifique plume et parler longtemps, c'est pas nécessairement les mêmes caractéristiques ou le sonnet qu'on a utilisé très souvent aujourd'hui attribue.
Ah oui.
Mais pour répondre à la question, moi, une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'était le tirage. Et je réfléchissais à tous les enseignants, les jeunes enseignants qui, dans les cinq premières années, quittent la profession parce qu'ils sont épuisés. Et ceux qui sont retraités, on l'a vu cette année, beaucoup de départs à la retraite hâtive. Je me suis dit, si on était capable de jumeler les nouveaux enseignants avec les plus anciens, peut-être qu'il y en a qui resteraient plus longtemps dans la profession.
Est-ce que ça se fait pas déjà dans les stages? Parce que quand on étudie en pédagogie, en enseignement primaire, il me semble qu'il faut faire beaucoup de stages maintenant.
Absolument. Mais lorsqu'on a terminé, dans les cinq premières années, une fois qu'on a gradué de l'université, qu'on devient enseignant et qu'on est titulaire de sa classe, dans les cinq premières années, on parle quand même de 20 à 30 d'enseignants qui quittent dans les cinq premières années, ce qui est énorme. Donc moi, je me suis dit, ça prend quand même 4 ans à les former. Eux, ils investissent énormément de temps, d'argent, d'efforts justement. Et malheureusement, après 5 ans, on voit qu'il y en a beaucoup qui décident de quitter pour différentes raisons, mais il y en a qui disent aussi que c'est parce qu'ils sont épuisés après 5 ans. La charge est quand même importante. Les classes sont vraiment très diversifiées. Donc, on a besoin d'aide. Et moi, je trouvais que quand l'orthopédagogue ou que la directrice adjointe est venue me prêter main forte dans ma classe, ben même moi, ça m'a donné un coup de main. On était capable vraiment de se séparer quelques sous-groupes et de mieux travailler avec l'élève, les élèves, puis de s'assurer qu'il n'y a personne qui a perdu le rythme et qui a arrêté de suivre dans sa classe.
On discutait tout à l'heure, puis on se demandait, vous vous demandiez pourquoi on n'allait pas chercher non seulement des enseignants à la retraite, mais on pourrait demander à des écrivains, des comédiens qui sont actuellement sur le carreau à cause des règles de la COVID. Pourquoi ça se fait pas?
Ben, bonne question. Moi, il y a à peu près environ un mois, j'ai vu une publication de Sylvie Payette sur sa page Facebook où elle rappelait qu'il existait au Québec un programme, la culture à l'école. Donc, c'est les écrivains qu'on invite à venir donner un coup de main. Donc, ça peut être une suppléance ou venir faire de la lecture en classe. Et je me suis dit, mais pourquoi on va pas plus loin suite à cette magnifique idée de Sylvie Payette? On a aussi des comédiens qui pourraient venir prêter main forte. Ça peut être une journée, une demi-journée même, parce que le français, on peut l'apprendre de différentes façons. Puis même, moi, aujourd'hui, dans ma classe, j'en ai une qui aimerait devenir comédienne. Alors, imaginez si on avait un Vincent Gratton qui débarque à l'école qui prendrait une demi-journée.
Si et même les députés sont capables d'enseigner.
Ben oui, ben oui. Je pense que Vincent Gratton sera encore meilleur que moi. Alors, mais ça serait super intéressant. Et on pourrait avoir ici des gens qui, on a vu, les salles de spectacle sont fermées. Mm-hmm. Alors, si on est capable d'avoir ceux qui ont du temps à donner, c'est peut-être le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que je peux vous dire, les banques de suppléance sont vraiment, vraiment vides.
Mais
et
oui.
C'est là qu'on a besoin de vous. On a besoin. Et écoutez, hier, il y a même une médecin qui est venue donner sa journée au complet hier. Pour venir aider, puis elle faisait avec moi en matinée, on faisait les masques, on préparait vraiment des paquets de masques procédure pour les enseignants. Mais après ça, l'après-midi, elle est allée en maternelle expliquer aux jeunes c'est quoi les microbes. Alors, c'est, je vous dis, là, c'est le meilleur moment pour lever la main pour l'école. On dit que ça prend un village pour élever un enfant, c'est vrai. Et là-dessus, j'espère sincèrement que tout le monde va entendre ce message. Et c'est vraiment pas compliqué. C'est sûr que vous allez...
Est-ce qu'il y a d'autres députés qui font ça, Marois Risquet? Est-ce qu'il y a d'autres députés
pas à ma connaissance. Okay. Pas à ma connaissance, mais c'est vraiment selon l'agenda de tous. Moi, j'étais capable vraiment de libérer ma semaine. Et maintenant, je vais voir soit mon lundi matin ou mon vendredi après-midi, parce que je quitte le lundi fin d'après-midi pour Québec et je reviens le jeudi soir vers 11h le soir.
Ouais.
Alors, soit je vais donner mon lundi matin ou mon vendredi après-midi, je vais le donner à la même école. Parce qu'évidemment, on essaie d'être attiré à la même école, pour éliminer le transfert de personnel le plus possible. Alors, ça semble pas beaucoup une demi-journée, mais des fois, ça fait la différence dans une école.
En terminant, êtes-vous pro pour qu'on passe l'Halloween ou contre, vous qui êtes la critique en matière d'éducation? Puis comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un débat au sein de l'école?
Il n'y a pas vraiment de débat au sein de l'école. Je peux vous dire que l'an dernier, on a annulé l'Halloween pour beaucoup moins, soit la pluie. Alors, je pense que cette année, je vais attendre les consignes de la santé publique. Je crois qu'on peut... j'entendais ce matin des gens parler de différentes façons de passer l'Halloween. Il va falloir qu'on soit très créatif. C'est important quand même que les enfants gardent certains événements qui leur sont à cœur. Et moi, je suis une fan finie de chocolat. Donc, c'est sûr que malheureusement, je vais voter pour oui, en espérant que la santé publique donne son aval.
Mais là, avez-vous reçu des pommes, vous? Parce que habituellement, à l'enseignant, on donne une pomme. C'est une sorte de tradition.
Ben, vous savez que moi, je suis d'origine marocaine.
Oui.
Alors, aujourd'hui, on distribuait des clémentines du Maroc.
Ah, bon, c'est sympathique.
Ben, donc, il n'y a pas eu de pote, mais non, j'ai pas eu de pommes, mais on distribue présentement des clémentines. Et j'essaie de faire mon gâteau à l'orange et coconut pour distribuer vendredi en récompense.
Noix de coco, Marois. Noix de coco.
Oui, et orange quand même.
OK. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Alors, c'était Marois Risquet, députée libérale de Saint-Laurent, et cette semaine suppléante dans une école dans son comté. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
Cube Radio.